Olivier Bonassis, quand on prononce votre nom et votre prénom, aussitôt il y a derrière un autre nom, Marie de Nazareth. Quel est le parcours entre Olivier et Marie ?
C'est un parcours un peu inattendu, puisque moi quand j'étais jeune, j'étais baptisé dans l'église réformée. Mon père était protestant et ma mère catholique, et puis ensemble, ils n'ont pas tellement pratiqué la foi. On a été baptisé donc dans l'église réformée avec ma sœur, et puis les deux autres enfants n'ont pas été baptisés du tout. Et donc on vivait sans Dieu comme ça, et moi j'avais un parcours un peu particulier, donc j'avais pas mal d'ambition, je voulais réussir dans la vie, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait Polytechnique, après je voulais faire l'ENA. À Polytechnique j'ai monté des entreprises, ça s'est très bien passé, donc j'ai commencé à gagner de l'argent pendant mes études, et j'avais à peu près tout ce dont je rêvais, c'est-à-dire que j'avais rêvé en prépa de réussite, d'argent, de soleil et tout ça, et donc on avait monté une entreprise de presse pour étudiants, et on faisait des couvertures, alors j'ose le dire, c'est difficile, mais on allait photographier des jeunes filles sur les plages à l'autre bout du monde pour faire des couvertures de nos journaux qu'on diffusait auprès des étudiants. Et on racontait dans ces journaux les soirées, les alcools, les cigarettes, enfin tout, des trucs complètement en dehors de la foi. Et je me rappelle très bien, un jour, j'étais dans un grand hôtel en Martinique. J'étais allongé sur mon lit et je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as de l'argent, tu t'amuses, il fait beau, pas de problème, et tu n'es pas heureux. Et je n'arrivais pas à comprendre, parce que tout ce dont j'avais rêvé toute ma jeunesse, je l'avais plus ou moins eu, un petit peu en tout cas, et ça me comblait pas du tout, ça ne me rendait pas heureux. Donc je suis rentré de ce voyage avec plein de questions.
Je n'étais pas heureux. À quoi ça se voyait ?
Ça m'apportait pas ce que j'avais rêvé que ça m'apporterait. Et ça, je l'ai ressenti très fortement. C'est-à-dire que je suis rentré en me disant, est-ce que je me suis pas complètement trompé de voie? Je formulais pas aussi clairement. En moi, je me posais des questions, je me disais, mais est-ce que je me suis bien orienté dans la vie? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Réussir sa vie, est-ce que c'est accumuler des petits plaisirs les uns après les autres et à la fin dire qu'on en a eu beaucoup, ça va nous conduire à quoi? J'étais persuadé qu'il n'y avait pas de réponse à ces questions. Je me suis dit, s'il y avait une réponse, ça se saurait, tout le monde l'aurait trouvé. Et puis, il n'y a pas de réponse de fond au sens. Et puis, je suis tombé sur un bouquin un peu par hasard, ça s'appelle Y a-t-il une vérité de Jean Doja. Et le titre m'a marqué, c'est exactement ça au fond que je ressentais, c'est est-ce qu'il y a une vérité, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vrai sur quoi on peut s'appuyer. Et encore une fois, j'avais une démarche très scientifique, très rationnelle, je ne voulais pas m'appuyer sur de la rigolade, donc j'ai lu ça mais avec beaucoup de scepticisme. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, je me suis aperçu que dans la foi catholique, il y avait des réponses assez sérieuses. Et ça me posait un énorme problème parce que dans ma famille, l'église catholique était très très mal vue. Pour nous, c'était traditionnellement, c'était quand même ceux qui avaient brûlé les ancêtres. Et l'église catholique, c'était une sacrée horreur, quoi. Je lisais ça, en même temps, je résistais, mais j'essayais de le lire avec une certaine bonne volonté en me disant je ne dois pas avoir d'a priori et tout ça. Petit à petit, j'ai commencé à trouver que, contrairement à toutes mes idées reçues, il y avait des réponses solides, rationnelles, fortes, sensées à pratiquement toutes les questions qu'on peut se poser sur Jésus, Marie, enfin, pas Marie, parce qu'à l'époque, je ne connaissais absolument pas Marie, mais sur Jésus et la foi chrétienne. Et donc, j'ai poursuivi ce chemin, ça a été très lent. Et il y a une conversion très intellectuelle, on va dire, à partir de raisonnement. Toutes les questions que je me posais se débloquaient. Je me suis aperçu qu'il y avait des prophètes qui, pendant des siècles, avaient annoncé la venue d'un Messie et qu'il y a quelqu'un qui était venu, qui avait accompli des prophéties. Enfin, c'est quelque chose de dingue quand on y réfléchit. Qui avait eu des miracles et qu'il y en a encore partout, on peut en voir. Qui avait un homme de Galilée de 30 ans qui avait aucune formation, qui était dans un coin perdu de l'autre bout du monde et qui avait donné des paroles qui étaient reprises et qui étaient le best-seller absolu de tous les temps. C'est inexplicable. Voilà, toutes ces choses-là peuvent se regarder vite ou plus profondément. Moi, j'ai quand même regardé assez profondément parce que je n'en revenais pas. Et puis, à la fin, je me suis dit, bon, ben, c'est venu, je ne vous raconte pas les détails, mais à un moment, je suis devenu chrétien. Et là, je me suis dit, plutôt que d'aller faire l'ENA, j'étais à Sciences Po à l'époque. Et je me suis dit, quand je serai à la retraite, j'étudierai ces questions à fond. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi attendre la retraite? On pourrait le faire tout de suite. Alors je suis allé négocier avec Polytechnique que mes études complémentaires se fassent non plus à l'ENA. J'ai négocié un doctorat sur la doctrine sociale de l'Église qui commençait par 4 années à l'Institut catholique de Paris. Et puis je devais faire des années à Louvain après. Et donc je me suis lancé là-dedans. Et effectivement, alors quand mon père a appris ça, ça a été des discussions, des bagarres, des trucs. Il ne pouvait pas imaginer que je devienne catholique. Et finalement, petit à petit... Et j'ai vu mon père revenir en priant le chapelet. Et depuis, toute la famille est devenue... Mon père est devenu catholique, ma mère aussi. Mais ma sœur, qui était baptisée protestante, est devenue catholique en se mariant avec un protestant. Donc, il y a eu une entrée assez forte du bon Dieu dans la famille.
Est-ce qu'on peut dire, quand vous relisez votre histoire, que vous avez été instrument ?
Mais c'est vrai qu'il y a, il y a eu de, Il y a eu des choses, des dons, des cadeaux qui ont été donnés, qui m'ont permis de bouger, de voir des choses. Et alors dans cette histoire, ce qu'il y a d'amusant, c'est que je n'avais jamais entendu parler de la Sainte Vierge. Puis un jour, j'étais déjà bien converti, j'étais à l'Institut catholique de Paris, je m'occupais d'un groupe d'étudiants à la CCQL à Paris, et on m'a amené à Lourdes, et donc j'ai accompagné ces jeunes. Et là, un prêtre qui est devenu le prêtre qui m'a marié, m'a fait visiter le musée de Bernadette. Et en visitant le musée de Bernadette, j'ai vu les sabots de Bernadette, la chambre de Bernadette, le lit de Bernadette, et des choses très concrètes, très vraies. Et on sort de ce musée, bien décrit par ce prêtre qui connaissait par cœur l'histoire, et je me suis dit, mais il s'est passé ici une chose incroyable. La mère de Jésus est vraiment venue, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser à Marie. Et après, je suis allé à Chestochova avec le Saint-Père Jean-Paul II en 91 pour les JMJ. Et là, c'est passé l'épisode un peu déclenchant de toute mon histoire avec la Sainte Vierge. J'ai découvert Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Et cette spiritualité qui était celle du Saint-Père invite à tout donner à Marie comme Jésus pour imiter, pour suivre Jésus, reprendre le même mouvement en se confiant nous aussi comme un petit enfant dans les mains de Marie en lui disant « je me consacre à toi pour que tu puisses me conduire vers Dieu ». Et cette démarche-là, je l'ai faite très sérieusement. Chaque fois qu'on fait une prière sincère, cœur à cœur devant Dieu, eh ben, ces choses-là sont entendues au ciel. Moi, quand je me posais des questions, c'était aussi ma prière, c'était « si tu existes, montre-le, dis-le-moi ». Et j'ai fait l'expérience vraiment que la prière de consécration à Marie, si elle est faite vraiment, pour moi, a changé ma vie. Toute ma première démarche de conversion, ça a été une démarche très théorique. J'ai constaté, regardé, établi que la foi chrétienne tenait la route de manière incroyable par rapport à ce que j'imaginais, sur le plan de la raison. Il y a une étape après qui est absolument essentielle, qui est de dire, si vraiment on croit, il faut mettre en application, pas seulement au sens de changer sa vie pour ses comportements, ce qui a été très long chez moi, au sens de croire que si je me suis marié avec mon épouse, on s'est marié sur une parole, cherchez d'abord le royaume de Dieu, tout le reste vous sera donné de surcroît. Et ben, cette parole-là, par exemple, on a essayé de la mettre en pratique. À un moment, il y a un notaire qui est venu me voir, il m'a proposé de m'engager dans les Vierges Pèlerines, un mouvement. Je priais depuis longtemps pour faire quelque chose pour la Sainte Vierge. J'avais mon travail, donc il fallait que j'abandonne un petit peu, c'était un peu compliqué. Et donc j'ai dit, on va faire une expérience. Pendant un an, je vais mettre mon travail un peu de côté et je vais me donner entièrement à Marie. Puis si dans un an, je suis très endetté et tout ça, c'est pas grave, on repartira. Et en fait, au bout de cette année-là, mes affaires s'étaient mieux passées que dans l'année où je travaillais avant. Et donc j'ai été très très surpris. J'ai gardé cette idée que chercher d'abord le royaume, c'est vraiment important parce que le bon Dieu peut s'occuper de tout le reste. Dieu agit. C'est pas un Dieu passif. Quand on le prie, il répond. L'action de Dieu qui n'est pas une force, mais une personne qui répond à une prière et qui agit dans notre vie et qui transforme des situations compliquées en situations plus simples et à qui on peut se confier et comme un rocher, comme dit la Bible, et qui répond. Ça, je l'ai vraiment vécu et je pense que c'est vraiment l'expérience que tout le monde doit essayer de vivre parce qu'elle permet de passer du Dieu théorique au Dieu pratique. Ça m'a changé des choses très profondes. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on vit dans une vie où on ne croit pas, le mystère de la mort est quelque chose d'effrayant ou très d'angoissant. Quoi. De savoir que la vie n'est qu'un enfantement, que c'est le début et qu'après l'éternité, c'est l'essentiel, ça donne une couleur d'optimisme et de joie à toute la vie qui est incroyable en fait. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être vécu par tout le monde. Donc j'ai commencé à en parler à plein de gens. Moi, qui me procure le plus de joie dans la vie, c'est d'essayer de transmettre la foi. Et donc, depuis maintenant 14 ans, toute mon activité est principalement du bénévolat pour la foi. Et grâce à Dieu, le temps que je passe pour mes affaires professionnelles me permet de vivre.
Aujourd'hui, quel est le projet le plus important qui vous tient le plus à cœur?
Je m'occupe d'un projet qui me tient énormément à cœur, qui s'appelle Marie de Nazareth. On s'est retrouvé embarqué à l'organisation d'une veillée de prière à Bethléem pour le 2000e Noël. Et on a rencontré le maire de Nazareth qui voulait faire un musée pour la Vierge Marie dans sa ville à Nazareth. On l'a aidé et assez rapidement, il a dû arrêter ce projet parce qu'il avait des problèmes dans sa ville. Et il nous a proposé de le reprendre et on a dit oui, en transformant l'idée de musée en Centre International Marie de Nazareth, ça s'appellera, qui est un lieu d'évangélisation où les gens vont rentrer pour découvrir Marie et l'ensemble de la foi chrétienne.
À Nazareth.
À Nazareth. Alors, le premier projet est à Nazareth, donc c'est celui qu'on essaie de terminer. On est très lent puisqu'on a commencé en 2000. Mais le but, c'est de présenter la foi d'une manière nouvelle à travers de l'audiovisuel, avec un parcours de découverte de l'ensemble de l'histoire sainte qui va être normalement très beau. Et derrière, un parcours d'approfondissement pour que les gens puissent se poser toutes les questions et obtenir les réponses que donne l'Église en montrant à quel point elles sont solides, fondées et argumentées. Ce qui est sûr, c'est que Marie en Terre Sainte est très importante, à la fois parce que les musulmans et les juifs la voient d'un œil beaucoup plus favorable que Jésus. C'est une porte d'entrée au dialogue avec tout le monde en Terre Sainte. Et aussi parce que, figurez-vous, que ce projet est soutenu par les 12 églises chrétiennes de Terre Sainte, c'est-à-dire qu'il y a 5 églises orthodoxes, 5 églises catholiques et même 2 églises protestantes qui sont, depuis le début, dans la constitution de ce projet. C'est un petit miracle. Et ça, c'est très important parce qu'il faut bien voir que la Sainte Vierge, dans les églises apostoliques, dans les églises qui sont là depuis 2000 ans, qui sont celles de Terre Sainte, ne pose aucun problème. Et notre but, donc, c'est de faire ce centre pour que les gens qui viennent découvrent les choses magnifiques qui constituent le fond, les bases de la foi chrétienne, et soient incités à en découvrir davantage, parce que derrière ce projet, vous avez des sites internet qui vont fonctionner, qui vont être importants. Le seul qui fonctionne actuellement, il s'appelle mariedenazareth.com. Et l'idée, c'est que les gens qui ont découvert des choses dans la visite du centre puissent ensuite continuer le dialogue et l'approfondissement par internet après l'avoir commencé sur place dans le centre marial. Et alors, ce qui est en train de se dessiner à travers ce projet, c'est que ce qu'on est en train de faire pour Nazareth a déjà séduit un certain nombre de gens. On veut faire au Liban, enfin c'est pas nous, c'est l'ordre maronite libanais qui va faire au Liban, à Meifouk, dans le nord du Liban, un centre marial. Il est déjà en construction et on a fait une première inauguration il y a 6 mois. On est allé à Guadalupe, le recteur de Guadalupe au Mexique veut un centre marial absolument très très vite. À Aparecida au Brésil, ils en veulent un aussi. Ça veut dire que ce qu'on est en train de concevoir à Nazareth pour parler de la foi d'une manière nouvelle avec les moyens d'aujourd'hui, audiovisuel, va être dupliqué dans d'autres endroits du monde et on va mettre en lien avec Nazareth, donc en parlant de la foi des églises de Terre Sainte et de la foi catholique, mais d'une manière qui a une vocation œcuménique. Ça va être montré aussi à tous les gens qui pourront jamais venir en Terre Sainte, en leur parlant de la Terre Sainte et en leur disant qu'ils pourront y aller un jour. Voilà. Donc c'est un projet qui a un avenir et qui est en train de se développer. Ma découverte, ça a été de me rendre compte qu'il y avait des choses merveilleuses dans la foi et que la foi n'est pas un saut dans le vide, contrairement à ce que beaucoup croient. C'est une démarche de tout l'être,